Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani en direct de la Cité des Rails, il est 8h sur la radio rurale de Kaye. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. Deux tiers des Maliens trouvent que le niveau de la corruption a baissé au Mali selon le dernier rapport d'Afrobaromètre publié la semaine dernière. Au même moment, les défenseurs des droits humains alertent face aux cas d'intimidation et de disparition dans le pays. Crise au sein de la Confédération des producteurs de coton du Mali. Certains membres de l'organisation contestent l'élection organisée par M. Souleymane Fomba. Coupure intempestive d'électricité à Bamako et environ. Avec la Coupe du Monde en cours, les téléspectateurs ne cachent pas leur colère face à la situation. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté. Nuhum Djiré assure la technique. Plus de 68% de Maliens estiment que le pays va dans la bonne direction, même s'ils jugent mal la situation économique actuelle. C'est ce que révèle le dernier rapport d'Afrobaromètre publié vendredi dernier. Il ressort de cette enquête que deux tiers de Maliens trouvent que le niveau de la corruption a baissé. L'enquête menée du 6 juillet au 1er août 2022 a recueilli les opinions de 1200 adultes maliens. Imrana Kilou-Maïga nous fait le point.
Selon le rapport, la proportion des répondants qui trouvent que le pays avance dans la bonne direction a connu une hausse de 54% depuis 2020. Toutefois, les documents indiquent que 66% des Maliens qualifient assez mal ou très mal la situation économique actuelle du pays. Afrobaromètre rapporte que 13% des populations de Tombouctou, Gao, Kidal et 10% des Mopti sont ceux qui ne trouvent pas résiliente la situation économique actuelle du pays. En outre, 61% des habitants de la région de Kaye estiment que la conjoncture actuelle est pire que celle de l'année écoulée. Les rapports soulignent que pour 77% des Maliens, les conditions économiques du pays seront améliorés dans les 12 prochains mois. Sur la gouvernance, 8 Maliens sur 10 sont favorables à la gestion des militaires selon l'enquête. Par ailleurs, deux tiers des personnes interrogées trouvent que la présence d'une quelconque force étrangère dans le pays n'est pas nécessaire.
Et pendant ce temps, des citoyens font de plus en plus l'objet de menaces, d'agressions et même de disparitions. Le dernier cas en date est celui de Mamadi Djoula Dramé, membre du mouvement Ensemble pour le redressement. Après avoir été perdu de vue pendant plus de 48 heures, il a pu regagner sa famille lundi soir. La Commission nationale des droits de l'homme attire l'attention des autorités sur ce phénomène qui s'accentue. Agui Boubouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme, est joint au téléphone par Fatoumata Kodjo.
Il est établi que ces enlèvements ou disparitions relèvent des affaires étatiques. Dans ce moment qu'on parle de disparitions forcées. Et systématiser même les disparitions forcées constitue des crimes contre l'humanité. Donc, qui parle de crimes contre l'humanité parle de crimes passibles des juridictions internationales. Donc, c'est un phénomène très dangereux. Nous invitons les autorités à déployer tous les efforts pour traquer les auteurs, les complices de ces genres de crimes.
8h passées de 3 minutes, vous suivez toutes ces informations en direct de Kaye et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Crise au sein de la Confédération des producteurs de coton du Mali. Des membres de l'organisation réclament l'audit de la gestion de leur société coopérative au cours des 10 dernières années. Ils demandent aussi l'annulation de l'élection organisée par Souleymane Fomba, mandaté par l'État. Pendant ce temps, le nouveau bureau attend d'être confirmé par l'État. Mamadou Samasekou.
Les contestataires affirment que les textes de l'organisation ont été violés. Ils exigent donc un audit et le remplacement du mandataire. Sekou Koulibaly, président de la Chambre d'agriculture de Koutchala, membre des contestataires.
Selon la loi, les responsables sont tenus de faire le bilan des activités aux cotonculteurs. Ils ne l'ont pas fait depuis plus de 10 ans. Nous leur avons demandé de faire la restitution d'au moins 10 ans d'activité avant les élections. Nous nous sommes convenus sur cela. Hélas, du jour au lendemain, ils décident de la tenue des élections.
Élu le 5 octobre dernier, le nouveau bureau n'est pas de cet avis. Yacouba Kone, président élu de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali.
L'audit de la Confédération depuis 2019, je pense que la Confédération est en justice. On attend leur verdict. Bon, par rapport au mandataire depuis 2020, c'est les mêmes personnes qui se sont plaints.
Monsieur Kone demande à l'État de vite reconnaître leur bureau pour qu'ils puissent se mettre au travail. C'est à nous de chercher la solution au sein de notre organisation, ajoute-t-il.
Comme annoncé dans les titres, ces derniers jours, les coupures d'électricité sont fréquentes à Bamako et environ. Si des commerçants dénoncent son impact sur leurs activités, des supporters de football ne cachent pas non plus leur ras-le-bol face à ces coupures lors des matchs de la Coupe du Monde. Plus de détails dans ce reportage signé Moussa Ag Mahaha.
Issa Guindo est un commerçant à la rive gauche de Bamako. Il affirme que ces coupures d'électricité sont un manque à gagner pour ses activités.
À vrai dire, la coupure de l'électricité ne m'arrange pas parce que je travaille avec le courant. J'ai un frigo. Si l'électricité se coupe, les clients se plaignent du fait que la boisson n'est pas fraîche, le plus souvent.
Ces délestages coïncident actuellement avec la diffusion des matchs de la Coupe du Monde. Pour des amateurs de foot comme Alassane Adjawiakoui, la situation est insupportable.
Pour un supporter de football, il n'y a rien de plus énervant qu'une coupure d'électricité en plein match. Ça fait même perdre le goût du match. Les cas, c'était produit hier, nous étions à la 60e minute quand il y avait une coupure d'électricité. Nous étions obligés de nous déplacer d'un quartier à un autre juste pour pouvoir suivre le match.
Pour certains habitants de la capitale, ces coupures d'électricité sont d'autant incompréhensibles qu'elles surviennent en période de fraîcheur.
Actualité régionale, une trentaine de jeunes des villages de Lobu Kosoy, Sadou Koira et Koima dans la commune de Gounzourey, région de Gao, ont été formés lundi sur les techniques de montage de projets. L'objectif est de renforcer les capacités des participants au bénéfice de la commune. L'activité a été organisée par le Conseil communal de la jeunesse de Gounzourey. À présent, on en vient à notre dossier de la semaine. Le mariage entre cousins et cousines a toujours existé au Mali, rappellent des traditionalistes, même s'il est plus répandu chez une communauté qu'une autre, précise-t-il. Ils expliquent aussi que ces unions visaient à préserver et renforcer la cohésion de la famille. Toutefois, ce type d'union comporte des risques, soulignent des scientifiques. Un dossier signé Alima Yatara.
Assurer une bonne descendance et solidifier les liens familiaux, telles sont les différentes perceptions chez plusieurs personnes sur la question. C'est tout de même le contraire chez certaines ethnies.
Nous ne pratiquons pas ce genre de mariage. C'est même une interdiction. Parce que si jamais les deux conjoints se séparent, cela provoque une incompréhension entre les deux familles, voire une séparation.
Nous pratiquons ces phénomènes. Pour nous, c'est une bonne chose et c'est une pratique ancestrale. Mais nous constatons que les jeunes ne veulent plus la pratiquer. C'est dommage.
C'est une bonne chose de se marier à la fille de sa tante ou son oncle. Ça s'est fait chez nous, mais ça demande quand même de la patience. Car si les deux cousins se disputent régulièrement ou viennent à se séparer, cela peut couper les liens entre les familles.
Selon les islamologues, la religion musulmane n'interdit pas ces phénomènes. Cette pratique était même répandue au temps de nos prophètes, déclare Alassane Ba. L'érudit nous cite l'union qui est interdite.
La mère, la fille directe, la petite fille, c'est-à-dire la fille de sa fille, et également les catégories de sœurs, c'est-à-dire la sœur sanguine et la sœur utérine.
Pour Alassane Ba, le mariage entre les membres d'une même famille était longtemps considéré comme un facteur de cohésion. Il contribue aussi à élargir la famille tout en préservant les origines, ajoute-t-il.
Se marier directement à la fille de son oncle ou à la fille de sa tante directe, on appelle cousin-cousine ici, il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça.
Les scientifiques, de leur côté, insistent plutôt sur l'incompatibilité sanguine par rapport à ce type de mariage. Il est à la base de beaucoup de maladies héréditaires, selon eux. Docteur Ismaël Dambélé nous donne plus de détails.
Il va avoir, comme on appelle, une malformation au niveau de l'hémoglobine et c'est ce qui donne d'ailleurs les formes graves de la drépanocytose. Concernant l'incompatibilité du sang, par exemple, il y a des groupes sanguins qui ne se croisent jamais. C'est-à-dire que vous allez marier la femme, au grand jamais vous n'allez pas avoir des enfants.
Les traditionalistes conseillent de promouvoir ce type de mariage, car, disent-ils, sa disparition menacerait l'existence de certaines cultures et traditions.
Sport, football, Coupe du Monde Qatar 2022, les huitièmes de finale ont pris fin hier soir. Le Maroc a éliminé l'Espagne lors de la séance de tir au but sur un score de 3-0. Le Portugal a aussi dominé la Suisse par 6-1. Les quarts de finale débuteront vendredi prochain. Les premiers matchs opposeront le Brésil à la Croatie et les Pays-Bas à l'Argentine. Le Maroc, seul pays africain dans la course, jouera contre le Portugal samedi prochain à 15h. Et c'est sur cette information sportive que prend fin ce journal diffusé en direct de Kaye. Vous pouvez le réécouter sur notre site web au www.sudetamani.org ou en appelant sur Viamo au 37 321. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara avec une présentation de Aïssata Diarra. Mais avant tout de suite, le magazine. Au Mali, les malades du sida bénéficient des soins adéquats selon le Centre de soins d'animation et de conseil pour les personnes atteintes du VIH-Sida. Le centre souligne que plus de 58 000 femmes sont atteintes du sida dans le pays. Les responsables du centre de soins estiment qu'aujourd'hui, il y a une baisse de cas et moins de stigmatisation des malades. Qu'en est-il dans nos régions? Mariam Koulibaly nous en parle dans le magazine « Toutes les femmes du Mali ».
Le mois de décembre est dédié à la lutte contre le VIH-Sida dans le monde. Cette année, le thème est « Mettre fin aux inégalités dans les situations de conflit ». Pour Mme Diarra Kadiatou Koulibaly, sage-femme au Centre de soins d'animation et de conseil pour les personnes atteintes de VIH-Sida, les femmes bénéficient de soins et de suivi adéquats.
En général, quand elles sont là, elles viennent avec une confirmation. Cela veut dire qu'elles ont été testées ailleurs. Le test est positif. Maintenant, on veut la confirmation. Donc, quand on a le résultat positif, elle référée chez le médecin qui va faire l'annonce. Donc, quand l'annonce se fait, ça sera avec le médecin. On n'annonce pas brutalement comme ça. En avance, ça se trouvera que la femme avait déjà reçu. Donc, après l'annonce aussi, il y a un suivi aussi qu'on appelle le suivi post-annonce. On donne un rendez-vous d'un mois. Donc, elle va revenir bien suivie pour ne pas qu'elle fasse un déni, qu'elle refuse le traitement.
Le cas des femmes enceintes nécessite plus de suivi afin de préserver la santé de la mère et de l'enfant. Ici, il existe 3 niveaux de contamination. C'est pourquoi Mme Diarra Kadiatou Koulibaly, sage-femme, conseille à la maman d'être assidue dans ses prises de médicaments.
Parce que nos femmes, quand elles contractent une grossesse, la première des choses, c'est de faire la charge virale. La charge virale, c'est de voir la quantité du virus dans le sang. Parce que quand on est bien suivi et qu'on est sous traitement, avec les nouvelles molécules, au bout de 3 mois, la charge virale, elle est supprimée. Donc, quand une femme est bien suivie, cette bonne dame, tant qu'elle reste indétectable tout au long de la grossesse et pendant l'accouchement et pendant l'allaitement, ce nouveau-né n'aura pas de VIH.
Dans la région de Ségou, les malades sont écoutés, conseillés et soignés. Pour que les patients n'interrompent pas le traitement, une technique est d'ailleurs mise en place, nous explique Dr Malé Diasamake du CCRF de Ségou.
L'accès aux médicaments n'a jamais été, à ma connaissance, un problème par rapport à la pandémie. Les CPS sont même recrutés par certains ONG, ils sont partout dans les CESCOM. Même si on a des difficultés pour venir prendre ses arrivées, ses médicaments, immédiatement, le CPS se déplace pour aller rejoindre la personne et lui remettre ses arrivées. Donc c'est pour vous dire que l'accès aux médicaments aujourd'hui n'est pas un problème dans le district sanitaire de Ségou.
L'accessibilité du médicament est une réalité à Djigéni. Mais l'une des difficultés dans cette localité est le faible taux de dépistage des femmes, nous dit Mme Sangare Bintou Bengali, infirmière obstétricienne au CESCOM de Djigéni.
Toutes les femmes enceintes vont faire les dépistages là. On va donner une sensibilisation à elles d'abord et puis quand elles acceptent, on fait le dépistage pour connaître leur statut. Mais s'il y a des cas positifs aussi, on a les médicaments pour la prise en charge aussi. Bon, les femmes non enceintes, celles qui vont venir volontairement, peut-être on va faire leur dépistage aussi, mais ce n'est pas fréquemment comme les femmes enceintes.
Considérée comme une des villes où la maladie faisait rage il y a quelques années, aujourd'hui à Sikasso, des ONG travaillent pour diminuer le taux de contamination de la maladie. Mamadou Diarra, agent de l'ONG Serkes de Sikasso.
On s'est en fait référé aux enquêtes démographiques sur la santé. Le taux était à 1%. Là maintenant, ça a diminué. Aujourd'hui, c'est à 0,7%. Donc, on peut dire que en fait, la population n'a plus peur du sida avec les sensibilisations, avec la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, parce que en fait, il y a des médicaments en fait qu'on donne aux patients. C'est vrai que ces médicaments ne guérissent pas, mais ces médicaments ralentissent le développement du virus dans le corps.
Le taux de contamination et la stigmatisation liée à la maladie auraient baissé ces dernières années, soutient le personnel soignant. Mais sur le terrain, beaucoup expliquent que les campagnes de sensibilisation sont de moins en moins intenses.